Et automatiquement, cette boule, constituée uniquement par des atomes d'énergie en provenance de l'élément subtil eau, terre ou feu, cette boule devient un être. On l'appellera plus tard élémental, entre autres. Et cet être devient très obéissant. Il vit, il existe, à sa manière même, il pense un petit peu. Et il peut être manipulé. Le magicien peut l'envoyer à droite, à gauche, répandre le mal, ou forcer la richesse, ou forcer la séduction, par exemple. Et tout de suite, l'élémental ramène tout ce que le magicien a désiré. Et pour tuer ce genre d'élémental, il faut être un magicien soi-même. Et il faut casser la coque avec l'épée. Mais casser la coque ne suffit pas. Il faut aussi brûler l'énergie qui en sortira. Et cette énergie, comme elle a appris à vivre, comme elle a appris à être un petit peu indépendante, à avoir des désirs, les mêmes que les désirs de son maître, comme cette entité a appris à avoir des ambitions, les mêmes que les ambitions de son maître, alors il se passe un véritable combat entre le magicien blanc et cette larve puissante, ce fantôme puissant. Mais l'éclair de la vérité finit toujours par dissoudre cette illusion. Heureusement. Ce qui fait que, dans un monde, lorsque l'on veut créer un nouveau baptême, donner une initiation à l'humanité, avant de pouvoir joindre cette humanité, il faudra épurer tout le ciel qu'il y a autour d'elle et toutes les formes fantomatiques qui se trouvent à l'intérieur de ce ciel. C'est pour cela que, avant qu'il y ait la purification en vous-même et dans l'humanité, il y a la purification dans le ciel. Et quelquefois, pour que cette purification dans le ciel ait lieu, il faut malheureusement, je dis bien malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Quelquefois, il faut faire se manifester sur un plan physique une de ces entités qui ont été créées et qui ont été amplifiées par des générations et des générations de gens qui ont prié la même divinité. Mais cette divinité est diabolique. Et un jour apparaît un être qui semble tout droit sorti de l'enfer et on se dit « Mais qu'est-ce qui lui prend au bon Dieu de nous envoyer un individu pareil ? Il ne pouvait pas le tenir dans la cave ? Mais qu'est-ce qui leur prend au maître d'autoriser l'incarnation d'un tel sanguinaire ? C'est pas possible. Et pourtant, c'est la seule manière. C'est la seule manière de nettoyer le ciel et la terre. Quelquefois, il faut que cette entité s'incarne. Pourquoi ? Parce que tout simplement, cette entité n'a pas été créée par l'action d'un ou deux magiciens mal intentionnés. Mais c'est à travers les âges, plusieurs peuples qui ont renforcé cet être, qui ont nourri cet être par leur haine, leurs fantasmes, leurs illusions, leurs ambitions, leur orgueil. Ce qui fait qu'en même temps, un jour, s'incarne un peuple qui doit faire face au diable qu'elle a engendré pendant des générations et des générations. Le peuple s'incarne et son diable aussi. Et d'un seul coup, sur le terrain qu'est la terre, les deux sont face à face. Et le peuple qui ignore toutes ces lois occultes implore le bon Dieu de venir le soulager, de venir le sauver. Et les disciples de ce peuple regardent Dieu et lui disent « Mais pourquoi as-tu permis cela ? De quel droit ? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'autre moyen ?» Moi qui n'ai pourtant que l'amour d'un disciple, je sais que je me sacrifierai Je donnerai ma vie pour que ce diable n'existe pas. Et toi qui es Dieu, qui n'as même pas besoin de te sacrifier, tu permets qu'il s'incarne pour nous faire tous périr, pour nous faire tous souffrir. Je ne peux pas comprendre ça. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta divinité, excuse-moi de te le dire, mais il y a sans doute quelque chose qui ne va pas dans ta divinité. C'est ce que pensent souvent mes disciples, et je les comprends fort bien. Mais ce qui motive ce genre de réflexion, c'est uniquement l'ignorance. D'accord, c'est vrai. C'est vrai, Dieu peut éviter la chose. Mais en même temps, il ne peut pas, parce que ce n'est pas lui qui l'a créé. Il pourrait l'éviter s'il en était le créateur, parce qu'il est responsable de ses œuvres. Mais quand c'est toi qui crées quelque chose, c'est toi qui es responsable de ton œuvre. C'est à toi de t'en débarrasser. C'est à toi de comprendre comment ne plus jamais créer ce genre d'entité. Et c'est pour cela qu'à l'intérieur de la spiritualité, les sages essaient toujours de vous apprendre à avoir une pensée pure, un cœur pur. Tout cela pourquoi ? Pour ne pas créer de tyran qui un jour s'incarnera et qui vous fera tous mourir. Car il vous fera tous mourir le jour où il s'incarnera. Mais c'est toi qui l'as créé. Alors, si tu veux avoir un petit peu de patience et accomplir ta vie selon les conseils des sages, surveille ton cœur, surveille tes pensées. Cette science-là n'est pas simplement valable pour avoir bon cœur et bonne pensée. Car si tu veux mon avis, je me moque complètement que tu aies bon cœur et bonne pensée. Tant que tu n'es pas Dieu, le reste ne m'intéresse pas. Tu auras beau être un bon serviteur, c'est une bonne chose, mais tant que tu n'es pas Dieu, tu ne m'intéresses pas. Donc ne cherche pas à être joli, gentil, bon et bien fait, ça ne m'intéresse pas. Tu ne me séduis pas plus, tu ne m'intéresses pas plus, tu ne m'attires pas plus que celui qui fait le mal. Tu dois trouver cela odieux et tu as sans doute envie de secouer ta chaise. Mais c'est pour que tu arrêtes de t'identifier. Ne t'identifie pas plus à un disciple qui écoute la voix de Dieu qu'à un homme qui n'écoute pas la voix de Dieu. Parce que dès que tu t'identifies même au bien, tu deviens une image. Et l'image est le contraire de Dieu. Donc tolère que je te dise ces choses et que je détruise en toi toutes les images. Tolère. Parce qu'en fait, ce que je refuse, ce sont tes images. Mais toi, je t'attends. Toi, je te veux. Toi, je t'espère. Je ne prie que pour cela, d'ailleurs. Reçois cette invitation-là, mais pas une autre. Tu ne m'entendras pas dire que je te veux être un bon disciple. Combien de fois t'ai-je dit que je préfère un disciple désobéissant ? N'est-ce pas que je te l'ai dit ? Combien de fois je t'ai dit que je préférais l'originalité, la fantaisie, même si elle frise la désobéissance et la désorganisation ? Mais au moins tu es vivant. Si tu savais comme cela m'attriste de voir des curés en randonnion qui défilent le matin dans l'église. Moi, je ne suis pas ce genre de jardinier fait pour venir cueillir tous ces rangs d'oignons. Moi, je suis la vie. Et je suis là pour que tous ces êtres qui s'amusent à être des légumes, les légumes parfaits du bon Dieu, les légumes parfaits de Koutoumi, les légumes parfaits de Moria, je suis là pour qu'ils deviennent des anges. Moi et d'autres. Nous ne sommes là que pour ça. Nous sommes là pour que tu te déracines, pas pour que tu t'enracines, même si c'est au nom de Dieu. Nous sommes là pour que tu te déracines, mais c'est dur de se déraciner. Comme c'est dur, comme c'est douloureux. Ça fait mal, jusque dans la racine du dos, jusque dans le profond des rêves. Ça fait mal. Quoi ? Tu me dis que désormais il ne faut même plus croire en Dieu ? Eh bien oui, c'est une façon de te déraciner. Pourquoi crois-tu en Dieu, idiot ? Pourquoi crois-tu en Dieu ? Et quand je dis cette chose, est-ce que je veux détruire les églises ? Non, je ne veux pas détruire les églises. Je respecte, je couvre, je protège l'église. Mais je détruirai ton église, celle que tu fais à l'intérieur de l'église, la tienne. Celle que tu fais quand tu es chez toi dans ta chambre et que tu dis « Oh Dieu, que ta volonté soit faite ». Mais qui te dit que Dieu est une volonté ? C'est plutôt toujours la tienne qui est en travers. Alors que Dieu a une volonté très simple, que l'on pourrait assimiler à aucune volonté, c'est tout simplement « Ainsi soit-il ». Mais toi, tu dis que ta volonté soit faite, comme s'il existait Dieu le Père, le général des armées, son plan d'attaque, et puis toi, le petit soldat, au bout de tout cela, qui essaiera tant bien que mal de manipuler les armes, et qui portera le drapeau aussi longtemps que possible, même à l'instant de sa mort. Parce que des fois, tu es même pris de lyrisme dans ta prière, et tu te dis, Seigneur, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Je connais tout le fond de tes pensées. Ce n'est pas compliqué. Et ce n'est pas compliqué pourquoi ? Parce que j'ai joué la même histoire, vois-tu. Il y a des millénaires de cela. J'ai joué la même histoire. Et j'ai été le même soldat que toi. Et je me suis dit, il y a une bataille sur la terre entre le diable et le bon Dieu, entre les bons disciples et les mauvais disciples. Alors je mets ma cuirasse et je porte mon drapeau et sur le drapeau je mets le nom de Dieu et je fais mon église. Et à l'intérieur de cette église, je fais mes disciples et je leur dis, il faut faire comme cela. Et puis une autre fois, j'ai été un moine et je disais, je ne me bats plus, je ne m'investis plus dans le monde, je reste face au nom de Dieu et je le répète. Et je serai parmi ses élus. Et j'abandonnerai la nef de la terre derrière moi, très loin. J'ai été aussi, comme toi, quelqu'un qui ne croyait qu'à l'amour. J'ai été aussi, comme toi, quelqu'un qui ne croyait qu'aux vêtements, qu'à la force de l'épée. J'ai été aussi quelqu'un qui a cru les images. Alors, quand je te regarde vivre, je n'ai pas besoin d'être un grand philosophe pour te comprendre. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'immensément intelligent et illuminé. Car c'est comme cela que souvent on m'apprécie. Souvent on dit que ce frère-là est instruit, qu'il est illuminé, il sait tout de la nature humaine. Et pour cause, je suis passée dans les mêmes ruisseaux que toi, dans les mêmes caves que toi. Je suis montée dans les mêmes greniers que toi. Et comme toi, j'ai dû aussi mourir et j'ai été mis à mort. Et ce que je peux te garantir, mon frère, c'est que cette mort-là est vraiment précieuse. Elle vaut vraiment le coup, comme tu dis toi-même. Elle est vraiment extraordinaire. Et en même temps qu'elle est une mort, elle est la poche de la vie. De la vraie vie. Tu meurs à ton égoïsme, tu meurs à tes images, tu meurs à ton orgueil, tu meurs à tout ce qui est ton égo inférieur, ton égo de matière, pour naître à l'esprit. Et là, tu t'aperçois que tout ce que l'on t'avait enseigné est des millions de fois plus beau et plus extraordinaire que ce que l'on t'avait raconté. Cela dépasse l'imagination. Quand je te parle quelquefois de l'amour, tu peux essayer de supposer ce qu'est l'amour. Mais quand tu le sentiras là, au creux de ta poitrine, quand tu le verras soulever ton esprit sur une grande paire d'ailes de plénitude, alors tu verras que, bien que j'ai essayé de t'en parler avec exactitude, cela ne valait rien. Alors de la même manière, j'essaye de te dire maintenant ce qu'est la liberté. La liberté est quelque chose qu'il te faut absolument conquérir si tu veux aller vers cette naissance. Et tu es là pour ça, n'est-ce pas? J'espère que tu n'es pas là simplement pour entendre un beau discours philosophique parce que tu sens que ta matière mentale peut jongler avec plaisir avec tous les concepts que j'énonce. Si tu es ce genre de jongleur, va voir dans la franc-maçonnerie si j'y suis. Là-bas, on philosophe beaucoup avec tous les symboles. Va voir aussi chez les Rosicruciens si j'y suis. Je ne peux pas t'envoyer dans l'église, c'est toi-même qui me diras, là-bas il n'y a plus rien, ils ne disent plus rien. Si tu es donc ici, ce n'est pas pour entendre et ce n'est pas pour écouter. Je ne suis même pas un très bon parleur. Tu peux me rétorquer que non, mais moi je t'indique que si. Je ne suis pas un bon parleur. Cela n'est pas mon travail ni mon essence. Mais de temps en temps, il faut ce qu'il faut. Sais-tu quel est mon travail? Sais-tu quelle est mon essence? Eh bien, je suis la mort. Je suis cette mort que tu redoutes. Voilà qui est troublant. Tu es venu ici dans une grande flambée de joie, avec un bouquet d'amour dans le cœur, en te disant « Je vais découvrir le frère pasteur dont on m'a tant parlé. » C'est sans doute un être merveilleux, il doit avoir une bonne mine. On doit avoir envie de l'embrasser si on le rencontre de l'autre côté. Eh bien non, mon pauvre petit frère, comme je te déçois. Comme tu es triste soudain, comme tu as peur. Si tu veux me voir, ne regarde pas un être d'amour. Ne regarde pas non plus un homme jovial ou un ange délicat. Regarde la mort et regarde-la bien en face, car plus tu me regarderas en face et plus tu connaîtras ma vérité, qui est de te tuer. Mais aie confiance, car l'épée que je glisse doucement dans ton sein, l'épée que doucement j'amène en toi pour te tuer, cette épée-là n'est pas une épée de haine ou d'obscurité. C'est une épée d'amour. Cet amour-là même que tu imagines et dont tu m'habilles, quand tu essayes de projeter ce que peut être mon image. Cet amour-là même que tu imagines qui doit exister dans le cœur de Dieu, dans le cœur de tous les maîtres, dans le cœur de tous les humanistes incarnés sur la terre. C'est cet amour-là qui est dans cette épée. Et cet amour se manifeste en une épée de mort. Et alors tu te dis, mais je ne comprends pas. Si c'est l'amour, ça ne peut pas être la mort. Parle-moi de résurrection si tu me parles d'amour. Parle-moi de purification, d'ascension, mais ne me dis pas que c'est la mort. Eh bien, je te l'affirme, l'amour, c'est la mise à mort. Et tu n'arrives pas à découvrir le véritable amour parce que tu n'arrives pas chaque jour à te mettre à mort. Tu essayes chaque jour de t'améliorer. Alors tu te dis, eh bien là, j'ai été un peu plus gentil que d'habitude. Là, tu as vu, Seigneur, j'ai été patient. Remarque-le, note-le dans le carnet. Là, tu as vu, j'ai été tolérant, je n'ai rien dit, alors que je bouillonnais, j'avais envie d'arracher tous les cheveux et tous les poils un à un sur son corps. Dans tel autre cas, tu as vu, j'ai su me contraindre à la méditation, à l'ascèse. Je suis restée 8 jours sans manger. Pourtant, Dieu sait que je rêvais d'une banane, d'une pêche ou d'une grappe de raisin. Tu as vu tout ce que j'ai fait en ton nom? Tu as vu de quelle manière je me suis améliorée? Et en pensant toutes ces choses, l'homme se met à créer une image qu'il peut enfin aimer. Alors qu'il n'aimait pas du tout l'image qu'il regardait autrefois quand il trouvait qu'il n'était pas assez maître de lui-même. Quand il trouvait qu'il mangeait trop, qu'il était trop gourmand. Quand il jugeait qu'il se vautrait trop sur le ventre des femmes ou les femmes sur le ventre des hommes. Et toutes sortes d'autres choses. Alors ces êtres-là, quand ils se propulsent dans la spiritualité, croient que pour être spirituel, il faut remplacer la mauvaise image par une bonne image. Comme à l'école. Il faut avoir des bons points. Il faut bien apprendre sa leçon. Il faut être tous en rang, bien aligné, bien écouter le professeur. Dis bonjour, monsieur le professeur. Au revoir, monsieur le professeur. Vous voulez que j'efface le tableau, monsieur le professeur? Vous avez vu, j'ai amené des fleurs, monsieur le professeur. Ma maman vous invite dimanche après-midi pour manger une tarte, monsieur le professeur. Et c'est ce que font les disciples avec le maître. Regarde, maître, là j'ai bien fait. Regarde, maître, là, je t'ai invité dans ma vie. Il y a toujours à table une bougie qui brûle pour toi ou une chaise qui est vide pour toi, je t'attends. Il y a toujours dans ma vie une place pour toi. Et quand Dieu entend cela, il éclate de rire. Et il répond à son disciple, « Ah bon, tu dis qu'il y a toujours une place pour moi. » C'est très intéressant à savoir. Très intéressant. Comme si toi tu ignorais que je suis toute la place dans laquelle toi tu es. Alors tu ne crois pas que tu inverses un peu les rôles? C'est moi l'endroit dans lequel toi tu es. Ce n'est pas toi qui dois me faire un peu de place dans ta vie, un peu de place dans ton amour. Comme par exemple, beaucoup de couples qui font l'amour se disent, eh bien Dieu, il y a une part pour mon plaisir, au dernier moment je penserai à toi et je t'enverrai l'énergie. Vous riez, et je l'ai fait exprès, mais pourtant c'est la vérité. Il y a toujours la moitié de la carotte pour toi et la moitié pour moi. C'est très bien d'avoir pensé à donner au moins la moitié de la carotte. Je ne me moque pas de l'humanité en ces termes-là. Au contraire, j'encourage. Si au début tu ne veux donner que 10% de ta pomme, Dieu est déjà très content. Il garde précieusement cet immense cadeau. Il le garde à l'endroit de lui où il y a toute l'éternité. Comme ça, ton cadeau ne périra jamais. Et à travers les incarnations, il te sera toujours rendu. Et le jour où tu veux donner 20% de ta pomme, Dieu est encore plus content. Il se dit, voilà, il a compris. Il me donne 10% de plus que la dernière fois. Et en fait, ce n'est pas l'homme qui donne à Dieu. Non. Beaucoup de disciples commettent l'erreur intellectuelle de penser qu'ils se donnent à Dieu, qu'ils donnent 2 jours de leur semaine à Dieu, ou bien 1 heure par jour pour la méditation, ou bien 10 ans, les 10 dernières années de leur vie pour le service. Ils regardent Dieu et puis ils lui disent, voilà, maintenant je te donne cela, comme on lancerait quelques pièces à un mendiant. L'homme ne peut rien donner à Dieu. L'homme ne peut qu'accepter que Dieu vienne en lui. C'est le mouvement inverse que tu dois faire. Mais tu es tellement égocentrique, tu es tellement imbu de ton ego, que tu dis, regarde Dieu, c'est moi qui te donne. Alors que c'est tout l'inverse qui a lieu. Tu es incapable de donner quoi que ce soit à Dieu, si ce n'est ta bêtise, pour qu'il t'en débarrasse. Et lui la remplace par la lumière. Fais le mouvement inverse. Décentralise-toi de cet ego qui sans cesse te fait dire « Dieu, je fais. Dieu, j'ai fait pour toi. Dieu, je t'ai donné. Dieu, je t'octroie. » Mais quel orgueil, quelle bêtise, quel égoïsme. C'est un peu comme un père et une mère qui travailleraient tout le jour pour ramener l'argent à la maison. Et puis, le père et la mère déposeraient l'argent gagné sur la table. Et leur enfant arrive, s'approprie tout l'argent et dit « Voilà maman, pour la semaine, je te donne 100 francs. J'ai bien travaillé, tu vois. J'ai bien compris tout ce qui m'était demandé à l'école. J'ai gagné ces 100 francs, je te les donne. » Cesse de contempler Dieu depuis ton petit moi, ton moi d'enfant. Contemple Dieu depuis ton âme, comme un adulte, comme un être qui est debout, comme un être logique, limpide, clair. Et comprends que tu n'offres rien à Dieu. Même si quelquefois pour la poésie, il est facile d'employer cette image, tu n'offres rien à Dieu. Mais c'est Dieu qui peut, selon ton abandon, venir de plus en plus t'enrichir. C'est cela qu'il te faut comprendre. Alors, concrètement, dans ta vie, qu'est-ce que tout cela veut dire ? Comment vas-tu vivre désormais ? Pour quelle raison vas-tu vivre ? Car c'est bien cela qui souvent chiffonne le disciple. Celui qui m'écoute depuis un certain temps sait très bien que j'ai dit « Le maître se moque de l'humanité ». Alors le disciple rentre chez lui et s'est dit « Très bien, je ne peux plus vivre donc pour trouver mon maître. Il viendra quand il voudra, comme un ascenseur descend au rez-de-chaussée. » Et puis il m'a entendu dire encore que Dieu n'existe pas. Alors le disciple rentre chez lui et il se dit « Bon, ben maintenant je ne peux même plus vivre pour Dieu, c'est plus possible, puisqu'il n'existe pas. » Ou du moins plus comme une cause, je me trompais. Alors soudain, le disciple se retrouve tout nu dans sa maison et il se dit « Mais si on me retire tout, pour qui vais-je vivre ? Pourquoi ? Pour quel but ? Même si on me retire la quête spirituelle, alors pourquoi est-ce que je serai en vie plus longtemps ?» À un moment donné du chemin, c'est ce genre d'énigme qui apparaît. Parce que le sage vient et lui dit « Le maître n'existe pas. Il est à la limite un initiateur, mais il n'est pas un maître. Parce que tu n'es pas le disciple, soumis, obéissant. » Et il ajoute « Dieu n'existe pas. Pendant tous ces âges, tu as aimé une divinité que tu as conçue toi-même, mais Dieu n'existe pas. » Et puis, l'illuminé surajoute « Rien n'existe. » Alors à ce moment-là, c'est terminé. Le disciple s'écroule, il tombe, il ne peut plus tenir debout, il n'en peut plus. Il vient d'apprendre ce qui vient de le mettre à mort. Rien n'existe. C'est une plaisanterie, répète, je n'ai pas entendu. Je te le dis, rien n'existe. Et dans la tête du disciple, il se passe un véritable cyclone, accompagné d'un ouragan, d'un raz-de-marée, d'un tremblement de terre. Il ne sait plus où il en est. Et il essaye de comprendre ce qu'on lui dit. Et plus il essaye de comprendre, et plus l'ouragan se déchaîne, et le tremblement de terre a lieu. Et il croit que le Dieu qu'il vient de rencontrer est un diable qui avait la mission de tout détruire. Un peu comme dans une épreuve finale, avant de rencontrer la vraie vie. Tu as beau te construire ce genre de raison, il n'empêche pas que le Dieu que tu rencontres à ce moment-là est le seul Dieu qui soit. Et ça te surprend tellement que tu n'arrives pas à l'accepter. Et ça se comprend. Ça se comprend très bien. Parce que pendant des âges, tu as toujours vécu pour quelque chose. Quand tu étais profane, tu vivais pour les sens. Pour le plaisir, le désir, la joie et la haine. Puis tu as vécu pour ta famille. Tu as évolué, tu t'es responsabilisé un petit peu. Alors tu vivais pour les autres. Puis tu es devenu un disciple et tu vivais pour le plan, pour que le plan s'accomplisse. Puis tu as encore grandi, tu es devenu un initié et tu vivais pour que l'humanité se perpétue. Puis tu as encore grandi et puis tu t'es dit, mais pourquoi je vis à